Radio Prague, les informations.
Les négociations sur l'avenir du gouvernement de coalition reprendront mardi. Une majorité de Tchèques est favorable à des élections législatives anticipées. Et puis pour Václav Klaus, l'euro est une catastrophe. Des discussions entre les dirigeants des trois partis de la coalition gouvernementale sur les conditions auxquelles pourrait se poursuivre leur collaboration actuelle ont été engagées ce jeudi au siège du gouvernement. Elles n'ont pour l'heure toutefois pas abouti à une résolution de la crise gouvernementale. Finalement, les représentants de l'ODS et du parti Affaires publiques ont échangé leur point de vue sur la situation et ont décidé de poursuivre les discussions mardi prochain. Le Premier ministre Peter Nečas a souligné que la priorité était l'accord prévu mardi autour des restrictions budgétaires et son vote mercredi au sein du cabinet. Les économies restent la priorité, l'adoption des mesures allant dans ce sens. C'est une des conditions sine qua non à la poursuite de la collaboration des trois partis formant la coalition gouvernementale. C'est ce qu'a fait savoir ce jeudi le Premier ministre et leader du Parti civique démocrate à l'issue de sa rencontre avec le vice-président du parti Top 09 et ministre des Finances Miroslav Kalousek. Le chef du gouvernement a précisé qu'il entendait à ce que le montant du déficit budgétaire de l'État soit maintenu en dessous du seuil de 3% du PIB, objectif annoncé du gouvernement. D'après un sondage de l'agence Median Agency, quelques 80% de Tchèques seraient favorables à des élections législatives anticipées. 16% des personnes interrogées se sont exprimées contre cette solution à la crise gouvernementale actuelle, tandis que 4% étaient indécis sur la meilleure solution. Dans le cas d'élections anticipées, 50% des personnes interrogées préféreraient qu'elles se déroulent cet été, contre 39% estimant qu'elles devraient être organisées à l'automne en même temps que les sénatoriales et les régionales. La monnaie unique européenne est une catastrophe et un projet erroné. C'est une des déclarations du président tchèque Václav Klaus lors d'une interview donnée lundi conjointement à la chaîne de télévision française France 24 et à Radio France Internationale. Il a également ajouté qu'il n'y avait à l'heure actuelle aucun débat sur l'adoption de l'euro par la République tchèque, ni même d'agenda sur cette question. Il a également expliqué le choix du gouvernement tchèque de ne pas adhérer au pacte de stabilité par le fait que ce serait donné à Bruxelles le contrôle sur le budget national. Le président tchèque, connu pour ses positions eurosceptiques, a également critiqué l'espace Schengen et la libre circulation des personnes. L'entretien sera diffusé sur France 24 ce vendredi. Un total de 501 prisonniers condamnés à des travaux forcés ont trouvé la mort dans les mines d'uranium tchèques sous le régime communiste. Des chiffres avancés par l'historien František Bartik, qui vient d'achever la toute première liste de victimes des mines d'uranium. La moitié de ces prisonniers étaient des prisonniers politiques. La plupart des décès étaient causés par des accidents de travail, mais une grande partie des prisonniers s'est également suicidée. D'après l'historien, certains ont également pu être tués. 80 000 personnes ont été condamnées aux travaux forcés dans les mines d'uranium sous l'ancien régime. Nombre d'entre eux ont par la suite souffert à leur sortie de graves problèmes de santé. Et puis à noter que le 2 avril est sorti en France chez Books Editions le roman de Jaroslav Rudisch intitulé « La fin des punks à Helsinki ». À noter que Jaroslav Rudisch est écrivain mais également scénariste. On lui doit le scénario de la BD Alois Nebel, récemment sorti également sur les écrans en France en adaptation cinématographique. Et puis on finit par un mot de météo. Vendredi, jour de fête des Vendoulas, le temps continuera d'être maussade avec un ciel couvert et des averses. Les températures toujours en baisse varieront entre 9 et 13 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Guillaume Narguet. Bonne écoute.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Anna pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité tchèque figure tout d'abord l'extradition de l'homme d'affaires Tomáš Pitr, arrêté en Suisse en 2010. Le multimillionnaire tchèque, un des témoins encore vivants de toutes les affaires politico-mafieuses de ces 20 dernières années, a été transféré dans son pays d'origine. Plus de détails sur cette affaire dans quelques instants. Nous 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 intéresserons ensuite à l'avenir urbanistique de la place Venceslas, parfois aussi appelée les Champs-Élysées Pragois. Depuis lundi, cette place Venceslas, ou plutôt sa moitié basse, a été transformée en zone piétonne et interdite à la circulation automobile. S'agit-il donc des prémices d'une transformation à long terme? C'est la question que nous nous sommes posées. Et puis la seconde partie de cette émission nous fera sortir de Prague pour nous emmener dans une ville parfois surnommée la Petite Prague. Mais ne le dites pas aux habitants de Kutná Hora, que nous découvrirons ou redécouvrirons dans la rubrique touristique. Mais en attendant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Comme annoncé en titre, le controversé homme d'affaires Tomáš Pitr, détenu en Suisse depuis juillet 2010, a bien été extradé en République tchèque. Accompagné de 3 policiers tchèques sur le vol Zurich-Vienne, Tomáš Pitr a quitté la Suisse mercredi avant d'être incarcéré à Brno, en Moravie. Condamné à 6 ans de prison par la justice tchèque pour escroquerie, délits fiscaux et abus de confiance, Tomáš Pitr, l'un des symboles de l'obscure transition économique post-communiste en République tchèque, avait été arrêté à Saint-Moritz après plus de 3 ans de fuite. Un nouveau procès attend désormais le multimillionnaire tchèque. Tandis que Radovan Krejčíř et Viktor Kožený, deux des hommes d'affaires tchèques véreux les plus recherchés depuis plusieurs années, profitent d'une relative liberté sous le soleil sud-africain pour le premier et des Bahamas pour le second, Tomáš Pitr est donc le premier gros poisson que la justice tchèque est parvenue à faire extrader. Toutefois, comme le remarque le quotidien Lidové Noviny dans son édition de jeudi, à la différence du célèbre bandit anglais Ronnie Biggs, qui souffrant du mal de pays était revenu au Royaume-Uni après 36 ans de fuite, tout en sachant qu'il allait être aussitôt arrêté et emprisonné, Tomáš Pitr n'a sans doute pas décidé de rentrer en République tchèque pour le simple plaisir de boire une bière dans une brasserie pragoise. La question se pose donc de savoir quelles raisons ont motivé Tomáš Pitr à retirer sa demande d'asile en Suisse il y a 3 semaines de cela et à se livrer ainsi à la justice de son pays. D'abord, sa demande d'asile auprès des autorités helvétiques n'avait, semble-t-il, que très peu de chances d'aboutir. Mais surtout, nombreux sont ceux à penser, et Tomáš Pitr et ses avocats les premiers, que l'homme d'affaires pourrait plus ou moins rapidement retrouver la liberté. En effet, l'année dernière, la Cour supérieure de justice de Prague avait annulé une partie de la peine de 6 ans de prison qui avait été initialement infligée à Tomáš Pitr en 2006 pour délits fiscaux. Dans le même jugement, la Cour supérieure avait également exigé une révision du procès. Le procureur de la République a toutefois fait appel de cette décision et un nouveau verdict doit donc être rendu d'ici le 20 avril prochain. Mais si cet appel était rejeté, Tomáš Pitr pourrait retrouver provisoirement la liberté en attendant la révision de son procès. Il appartiendra alors au tribunal d'établir s'il convient d'acquitter Tomáš Pitr ou de le renvoyer en prison pour une durée qui resterait alors encore à déterminer. Arrêté en Suisse, mi-2010, celui qui avait été qualifié d'ennemi public par d'anciens hauts responsables politiques pendant sa longue fuite, était placé depuis en détention extraditionnelle. Dès son arrestation, Prague avait demandé son extradition afin qu'il leur soit remis et qu'il purge sa peine privative de liberté. Tomáš Pitr était toutefois parvenu à retarder l'échéance en déposant plusieurs recours. Ce n'est qu'en décembre dernier que l'Office fédéral de la justice suisse avait finalement conclu que toutes les conditions d'une extradition étaient réunies, les délits économiques et fiscaux invoqués dans la demande de la République tchèque étant également punissables en Suisse. Selon le communiqué publié mercredi par l'Office fédéral de la justice suisse, le tribunal pénal fédéral a rejeté le recours contre la décision d'extradition de l'Office fédéral de la justice rendu en septembre dernier. Il nie que la demande d'extradition des autorités tchèques a été échafaudée, comme le prétendait Tomáš Pitr, afin de le poursuivre en raison de son activité politique. Autrement dit, plus rien n'empêchait l'extradition de Tomáš Pitr, et ainsi donc s'achève la première partie d'une histoire rocambolesque, comme la République tchèque post-communiste en a tant connu dans les années 1990 et 2010. La suite promet cependant de ne pas être moins intéressante. « Quel sera donc son avenir urbanistique? Les Pragois l'appellent communément Václavák, Václavské náměstí ou place Venceslas en français est un peu à Prague ce que sont les Champs-Élysées à Paris. Une artère centrale bouillonnante et depuis le 2 avril, sa partie basse, est interdite aux véhicules, les prémices d'une transformation à long terme. Élément de réponse avec Anna Kubichta.
C'est l'empereur Charles IV qui, lorsqu'il crée la nouvelle ville de Prague, prévoit dans ses plans de grandes places, dont la future place Venceslas, alors réservée au marché aux chevaux. Le tournant du 19e à 20e siècle la transforme totalement en faisant une artère digne des boulevards imposants des grandes capitales européennes, entourée de majestueux bâtiments et clignotante d'enseignes lumineuses. Au lieu de tous les grands événements historiques de l'histoire tchèque, lieu de rassemblement politique ou privé, la place Venceslas souffre aujourd'hui de nombreux maux qui diminuent et dégradent de son aspect. Un grand projet de revitalisation pour l'heure en sourdine est toutefois prévu pour ce centre commercial et culturel de la ville. Première étape depuis le 2 avril, le bas de la place est interdit aux véhicules, sauf exception. Radomira Sedláčková du département d'architecture de la faculté de technique et d'ingénierie de Prague a pour l'heure un jugement réservé sur cette interdiction.
À l'heure actuelle, la place se présente ainsi. Deux voies de circulation et au milieu, une bande verte. Ils ne feront pas de cette zone une voie piétonne juste en y interdisant les voitures. La place doit être réaménagée. À partir du moment où vous avez une différence entre le trottoir et la voie pour les véhicules, en termes de hauteur de pavement, ce n'est plus qu'un lieu de circulation interdit à la circulation. Ce n'est pas l'objectif. Pour fonctionner en tant que zone piétonne, la place doit clairement montrer que la voiture n'y est pas la bienvenue. Et non pas comme là où l'on s'est dit aujourd'hui, il me laisse exceptionnellement y marcher librement.
Seules exceptions à cette interdiction de véhicules, les taxis, les bus ou encore les véhicules de livraison qui, munis d'une autorisation de la mairie d'arrondissement, pourront s'y rendre. Pour Jarmila Ionova de l'association Les Maires de Prague, cette limitation, sinon interdiction des véhicules, est une bonne nouvelle.
En ce qui concerne la partie basse de la place, je pense que ça va contribuer à rendre le lieu plus vivant grâce aux piétons qui pourront circuler librement de part et d'autre. Je pense que ce type de mesure est possible lorsque la circulation y est possible en transport en commun et c'est le cas ici.
A contrario pour le directeur du département des transports de la mairie de Prague, Jan Heroudek, cette nouvelle mesure est négligeable du point de vue du système général de circulation dans la capitale tchèque.
C'est une décision de la mairie du premier arrondissement. Il faut se rendre compte que le vrai problème, ce n'est pas forcément la circulation en tant que telle, mais le manque cruel de places de parking. Si les voitures prennent la moitié de l'espace public, la zone, comme c'était le cas auparavant, donne une impression lamentable.
Une chose est sûre, c'est l'ensemble de l'espace urbain de la place Venceslas qui doit être repensé de fond en comble. Il y a quelques années, la ville de Prague a lancé un appel à projet de revitalisation de la célèbre place. Si un projet a été retenu prévoyant plus de zones piétonnes, plus de verdure et le retour des tramways, 6 ans après, sa mise en œuvre se fait toujours attendre.
Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite consacrée comme tous les 15 jours au tourisme. Et dans la rubrique touristique aujourd'hui, nous voyagerons dans la ville minière historique et culturelle de Kutná Hora. Nous visiterons notamment sa célèbre église gothique dédiée à Sainte-Barbe, patronne des mineurs, ainsi que l'étrange ossuaire baroque situé dans le village de Sedlec, à proximité de Kutná Hora. La rubrique a été préparée cette semaine par Alice Chavignon.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Bonjour, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Kutná Hora est une ville où chaque pierre, ruelle ou maison respire l'histoire. Nous vous la ferons découvrir aujourd'hui en compagnie d'Alice Chavignon, étudiante Erasmus à Prague.
Située à 60 km à l'est de Prague, la petite ville de Kutná Hora, inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO, mérite le détour. Une petite escapade au cœur de la région historique de Bohême-Moravie, dans cette chaleureuse cité historique de plus de 20 000 habitants, permet de découvrir la République tchèque sans se cantonner uniquement à la capitale et d'échapper, le temps d'une journée, aux foules de touristes qui arpentent ses rues et ses places. Pour s'y rendre, le voyageur a le choix entre la voiture, environ une heure de trajet, ou le train, 1h30 avec de nombreux départs chaque jour. Quel que soit le moyen de transport choisi, surtout, il faut admirer le paysage. On longe des petites rivières et cours d'eau, on sillonne de vastes campagnes inhabitées, on traverse des forêts, et si le temps est dégagé, on peut même percevoir les sommets enneigés des montagnes environnantes. Son surnom de Petite Prague lui vient de sa prestigieuse et ancienne histoire de ville minière. On estime que l'activité minière de Kutná Hora date au moins du XIe siècle. Mais ce n'est qu'à partir du début du XIVe siècle que la fièvre de l'argent transforme cette petite cité minière en véritable centre économique du royaume de Bohême. Sous le règne de Venceslas II, Kutná Hora obtient le droit de frappe de la nouvelle monnaie, le gros de Prague, ce qui permet de mettre fin à la circulation multiple de deniers frappés par les ducs et les villes. Elle acquiert dans le même temps le statut de ville royale. Les 14e et 15e siècles représentent l'âge d'or de Kutná Hora. Elle devient le centre culturel, politique et économique de la Bohême, rivalisant en importance avec la capitale et rayonnant dans toute l'Europe. La ville se transforme. Une résidence royale s'établit dans la cour des Italiens. Les petites maisons en bois des mineurs sont remplacées par des riches et grandes maisons de pierre de la bourgeoisie et de la noblesse. De nombreuses églises sont construites et la ville s'entoure de remparts pour se protéger. Cette expansion se ralentit à la fin du XVIe siècle avec le tarissement des mines et s'arrête avec la guerre de 30 ans. Pendant les siècles suivants, Kutná Hora s'endort et ce n'est qu'à la fin du XXe siècle qu'elle s'intéresse à la valorisation de son patrimoine architectural. En 1995, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Outre une longue balade dans les petites ruelles tortueuses de la ville pour se replonger dans l'atmosphère historique de la ville, deux visites sont incontournables. La majestueuse église de Sainte-Barbe et l'étrange ossuaire de Sedlec. La construction de l'église Sainte-Barbe, de style gothique, a commencé en 1380 avec l'architecte Petr Parler. Sainte-Barbe, sainte patronne des miniers, était particulièrement honorée à Kutná Hora. Les hautes voûtes de l'église sont décorées de fresques médiévales représentant la vie séculière de la ville à l'époque médiévale. En 1558, l'église est terminée par Bénédicte Reicht, qui la recouvre de trois toits en forme de pyramide allongée, ce qui lui confère un aspect encore plus majestueux et prestigieux. En sortant de la ville, il faut aller admirer le surprenant ossuaire de Sedlec. Dans cette chapelle construite à côté de l'église cistercienne de Sedlec, des os ont été entreposés au XVe siècle, faute de place dans le cimetière. En 1870, le sculpteur František Rindt a reçu une étrange commande princière, restaurer la décoration en os humain de la chapelle. Le détour vaut donc le tout coup, ne serait-ce que pour jeter un coup d'œil sur ses lustres, ses blasons et ses autels en os.
Justine Martin est une jeune Française qui a récemment visité Kutná Hora avec ses parents. On l'écoute.
En fait, j'en avais déjà entendu parler et lu des articles sur le guide vert. Donc, comme quoi, c'est une ville qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en plus, mes amis Erasmus m'en avaient parlé, ils m'avaient dit que ça pouvait être très bien. Donc, de cette là, on s'était dit qu'on allait faire quelque chose hors de Prague et aller voir ce que c'était. Donc, on a visité l'église, justement. Donc, et après, qui mène à l'église, il y a une allée avec plein de statues très belles qui donnent une très belle vue donc, sur la vallée. Et après, et ça s'est arrêté là. On a trouvé ça assez vide, de façon assez étonnante, mais très calme, très paisible. Et très 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 joli, vraiment le charme tchèque qui ressort. Et voilà, et l'église très 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 étonnante, on voit, j'avais vraiment jamais vu ça, au niveau des poutres, de l'architecture vraiment très originelle. Et c'est très, on trouve ça très étonnant quand on voit la ville, qu'il y ait une telle architecture, parce que la ville est quand même assez petite. Mais bon, après, quand on connaît son passé, enfin, on comprend mieux. On a été voir l'ossuaire également, donc avec l'artiste qui a assemblé tous des os, pareil, de façon très étonnante et assez étrange, j'ai trouvé, mais assez intéressant tout de même.
Kutná Hora satisfera sans doute tous les amateurs de l'art. Dans le collège jésuite local siège la deuxième plus importante galerie tchèque, Galeria Středočeského kraje, la galerie d'art de Bohême centrale, connue sous l'abréviation de GASK et consacrée à l'art du XXe siècle et à la création contemporaine. À savoir aussi qu'au mois de juin se tiennent à Kutná Hora les fêtes historiques qui replongent la ville dans sa période de fièvre de l'argent. Cette année, ces festivités connues sous le nom de Stříbrení auront lieu les 23 et 24 juin. Enfin, du 5 au 9 juin prochain se déroulera à l'église Sainte-Barbe ainsi que dans d'autres monuments historiques de Kutná Hora la 5e édition du Festival international de musique organisé par le violoncelliste Jiří Bárta.
Voilà, et c'est la fin pour aujourd'hui du bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague. Ahoy.